Chapitre 25. Bobby et Didi ne mirent pas Lyons en état d'arrestation. Bobby estimait plus judicieux de laisser l'inspection agir. Ces enquêteurs appartenant à la police d'État pourraient plus facilement que la police municipale lui mettre la pression. Ils seraient par ailleurs mieux placés pour établir un éventuel lien entre les agissements de Lyons et leur autre grosse affaire en cours, le détournement des fonds du syndicat. Bobby et Didi retournèrent donc au QG pour le débriefing de 23 heures. Le falafel avait fait le plus grand bien à Didi. Ce fut l'œil pétillant et le pas vif qu'elle monta les escaliers jusqu'à l'étage de la brigade criminelle. Ils approchaient du dénouement. Bobby sentait leur enquête s'accélérer et les emporter vers son inévitable conclusion. Tessa Léonie avait assassiné mari et enfant. Ne restait plus qu'à remettre les derniers éléments de l'affaire dans l'ordre et notamment à localiser le corps de Sophie. Les autres enquêteurs avaient déjà pris place lorsque Didi et Bobby entrèrent dans la salle. Phil avait l'air aussi allègre que Didi et de fait, il fut le premier à prendre la parole.
« Tu avais raison », lança-t-il tandis que Didi rejoignait l'avant de la salle.
« Ils n'ont pas 50 000 $ de côté. Toute la somme a été retirée samedi matin. L'opération n'apparaissait pas encore quand j'ai demandé le premier état financier. Et écoutez-moi ça. L'argent avait déjà été retiré 12 jours avant, puis redéposé 6 jours plus tard. Ça fait beaucoup de mouvements pour 50 000 $.
Sous quelle forme ça a été retiré pour finir ? Demanda Didi.
Chèque au porteur.
Bobby siffla tout bas. Une coquette somme disponible en liquide.
C'est un homme ou une femme qui a fermé le livret ? Demanda Didi.
Tessa Léonie, répondit Phil. Le guichetier l'a reconnue, elle était encore en uniforme quand elle a fait l'opération.
Elle organisait sa nouvelle vie, dit immédiatement Didi. Si elle faisait l'objet d'une enquête pour le meurtre de son mari, leur avoir commun risquait d'être gelé. Donc, elle commence par sortir les gros sous pour les mettre à l'abri. Et maintenant, combien vous pariez que si on retrouve ces 50 000 $, on trouvera un quart de million de dollars pour leur tenir chaud ? Phil était intrigué. Alors Bobby leur parla de l'enquête de la police d'État au sujet du détournement de fonds. Leur meilleure piste. Le compte avait été fermé par une femme qui portait une casquette rouge et des lunettes de soleil noir.
« Ils avaient besoin de cet argent, » répondit Phil. « J'ai un peu creusé. Sur le papier, la situation financière de Brian Darby et Tessa Léonie était bonne. Mais vous ne croirez jamais les sommes que la petite Sophie a empruntées en crédit à la consommation.
Hein ?» s'exclama Didi.
Je ne te le fais pas dire. Apparemment, Brian Darby a pris une demi-douzaine de cartes de crédit au nom de Sophie en se servant d'une boîte postale comme adresse. J'ai trouvé plus de 42 000 $ de crédit à la consommation contractés au cours des 9 derniers mois. On relève quelques gros remboursements, mais inévitablement suivis d'importants retraits d'espèces, la plupart à Foxwoods.
Donc, Brian Darby était bien un joueur compulsif. L'abruti. Phil était tout sourire.
Histoire de m'amuser, j'ai comparé les dates des retraits avec l'emploi du temps professionnel de Brian, et c'est clair, Sophie ne retirait de grosses sommes que lorsque Brian était à terre. Donc, oui, je dirais que Brian Darby était en train de perdre l'avenir de sa belle-fille au casino.
Dernière opération ? Demanda Bobby. Il y a 6 jours. Il avait procédé à un remboursement avant ça. Peut-être la première fois où les 50 000 $ ont été retirés du livret d'épargne. Il a remboursé ses crédits et ensuite il est retourné aux tables et soit il a beaucoup gagné, soit il a beaucoup emprunté parce qu'il a pu remettre les 50 000 $ sur le livret d'épargne en 6 jours.
Une minute, non, se corrigea Phil. Il a beaucoup emprunté parce que les derniers relevés des cartes de crédit font apparaître de gros retraits, donc pendant les 6 derniers jours, Brian s'était enfoncé dans les dettes. Et pourtant, il avait pu remettre les 50 000 $ sur le livret. Il a dû prendre un crédit auprès d'un particulier, peut-être pour se couvrir aux yeux de sa femme.
Bobby regarda Didi. Tu sais, si Darby s'était mis dedans jusqu'au cou avec des usuriers, il est possible qu'ils aient envoyé un encaisseur chez eux. Didi n'y croyait pas. Elle mit la cellule d'enquête au courant des nouvelles déclarations de l'agent Lyons. Tessa Léonie l'avait appelé dimanche matin en prétendant qu'un mystérieux homme de main avait kidnappé sa fille et tué son mari. Pour récupérer son enfant, il fallait qu'elle se laisse accuser du meurtre. Shane Lyons avait accepté de l'aider en la battant comme plâtre. Quand elle eut fini, la plupart de ses collègues affichaient le même air perplexe.
« Attends une seconde, » intervint Neil. « Elle a appelé Lyons dimanche, mais Brian était mort depuis au moins 24 heures. »
Information qu'elle n'a pas jugé bon de lui communiquer et qui prouve une nouvelle fois que c'est une menteuse compulsive.
« J'ai fait des recherches sur le coup de fil passé par Darby vendredi soir, » dit l'enquêteur Jake Owens. « Malheureusement, il a appelé un téléphone à carte prépayée. Aucun moyen de déterminer à qui il appartient, même si la méthode fait penser à quelqu'un qui n'a pas envie qu'on puisse surveiller ses communications. Un usurier, par exemple.
« Et il se trouve que Brian a récemment été victime de deux accidents, » ajouta Neil. « En août, il a été soigné pour de multiples contusions au visage, qu'il a attribuées à un pépin de randonnée. «
Voyons, » dit Neil en feuilletant ses notes.
« J'ai regardé ça avec Phil. Voilà. Brian était en mer en septembre et octobre. Il est revenu le 3 novembre et le 16, il était nouveau aux urgences, cette fois-ci avec des côtes fêlées. Il a dit qu'il était tombé d'une échelle en réparant une fuite sur le toit. À noter que toutes les cartes de crédit au nom de Sophie Léonie étaient au plafond en novembre, signala Phil. Donc si Brian avait contracté de nouvelles dettes, il ne pouvait pas se servir de ses lignes de crédit pour les rembourser.
Des retraits sur les comptes personnels ? Demanda Didi.
J'en ai trouvé un gros en juillet, 42 000. Mais l'argent a été remis sur le compte juste avant que Brian ne s'embarque en septembre et après ça, je ne vois plus de grosses opérations avant ces deux dernières semaines.
L'intervention, commenta Bobby. Il y a 6 mois, Tessa et Shane ont mis Brian devant ses responsabilités face à ses problèmes de jeu, que Tessa avait découvert suite à la perte brutale de 30 000 $. Il a remis l'argent.
Gros gain ou gros emprunt, marmonna Didi.
Ensuite, il a caché son vice, continua Bobby. En se servant de toute une série de fausses cartes de crédit dont les relevés étaient adressés à une boîte postale pour que Tessa ne les voit jamais. Jusqu'à ces deux dernières semaines où Brian a apparemment rechuté et retiré 50 000 $. Tessa s'en est peut-être aperçue, ce qui expliquerait que la somme ait rapidement été remise 6 jours plus tard.
« Et pourquoi l'aurait-elle retirée le samedi matin ?»
fit remarquer Phil.
« Oubliez l'idée de commencer une nouvelle vie. J'ai l'impression que Tessa Léonie avait déjà bien du mal à sauver l'ancienne.
Raison de plus pour tuer son mari, » conclut Didi en s'approchant du tableau blanc.
« Bon. Qui pense que Brian Darby était un joueur obsessionnel ?»
Toute la cellule d'enquête leva la main. Didi partageait cet avis et ajouta ce détail à leur tableau de bord.
« Ok. Brian Darby jouait. Sans grande réussite apparemment. » Il s'était mis dedans au point de s'endetter, de commettre des fraudes à la carte de crédit et peut-être de se faire mettre une raclée par des truands.
Et puis ?
Ses enquêteurs la regardèrent.
Elle les regarda.
Hey, ne me laissez pas m'amuser toute seule !
Nous pensions que l'amant de Tessa Léonie lui avait démoli la figure. En fait, c'était un collègue qui croyait lui rendre service. Nous sommes en mesure de confirmer une partie de cette histoire. Il est exact que Brian Darby jouait. Il avait peut-être des dettes qui auraient justifié qu'un encaisseur lui rende une petite visite. Qu'est-ce qu'on en conclut ?
Didi écrivit une nouvelle tête de chapitre. Mobile.
À la place de Tessa Léonie, si je découvrais que non seulement mon mari continue à jouer, mais qu'en plus ce sombre abruti a contracté des dizaines de milliers de dollars de crédit au nom de ma fille, je le tuerais rien que pour ça. Mais comme bizarrement plaider que son mari était un connard fini n'aurait pas suffi à la faire acquitter, Tessa avait quand même intérêt à jouer la carte de la légitime défense en demandant à Lyons de la tabasser.
Plusieurs enquêteurs eurent le bon goût d'approuver. Bobby, naturellement, mit le doigt sur la première faille de ce scénario. Donc elle aime suffisamment sa fille pour s'offusquer de l'arnaque à la carte de crédit, mais elle la tue quand même.
Didi fit la moue.
Objection retenue.
Elle regarda la salle.
Quelqu'un ?
Peut-être qu'elle n'a pas tué Sophie volontairement, suggéra Phil. Peut-être que c'était un accident, Brian et elle se disputaient, Sophie s'est interposée. Peut-être que la mort de Sophie est devenue une raison supplémentaire de tuer Brian. Sauf que maintenant, sa famille est morte, son mari a été tué avec son arme de service. Il y aura forcément une enquête, alors Tessa panique. Il faut qu'elle imagine un scénario plausible.
La légitime défense a déjà fonctionné une fois pour elle. Rappela Bobby, dans l'affaire Tomio. Elle congèle le corps de son mari pour gagner du temps, emmène celui de Sophie faire un tour en voiture, et le lendemain matin,
Elle échafaude toute une histoire pour nous mener en bateau, Shane Lyons et nous, conclut Didi. Leur rideau s'ouvre sur sa grande scène du dimanche matin.
Et si elle avait retiré les 50 000 $ le samedi matin parce qu'elle avait découvert que Brian s'était remis à jouer,
proposa un autre enquêteur.
Brian s'en est aperçu, ou bien elle l'a pris à partie, et de là, les choses ont dégénéré.
Didi approuva, ajouta une ligne au tableau. Où est passé l'argent?
Ça va être difficile à découvrir, prévint Phil. C'est un chèque au porteur, donc il peut être déposé dans n'importe quelle banque à n'importe quel nom, voire donné à un négociant en échange d'espèces.
Gros chèque pour la plupart des négociants, objecta Bobby.
Pourcentage garanti, répliqua Phil. Beaucoup d'agences accepteraient cette transaction, surtout si elles étaient prévenues à l'avance. Les chèques de banque sont ce qu'il y a de plus sûr et les marchés financiers sont sur les dents en ce moment.
Et si Tessa avait eu besoin de l'argent? Demanda brusquement Didi. Si elle avait dû payer quelqu'un? 30 paires d'yeux la regardèrent. C'est une autre possibilité, réfléchit-elle à voix haute. Brian Darby était un joueur compulsif. Il ne pouvait pas se dominer, et comme un bateau qui coule, il entraînait Tessa et Sophie par le fond. Or, Tessa est une femme qui a déjà touché le fond une fois. Elle n'est pas naïve. En fait, elle a travaillé deux fois plus dur pour se reconstruire une vie, surtout pour sa fille. Alors que peut-elle faire? Divorcer prend du temps, et Dieu sait dans quel état Brian aura mis leurs finances avant que ça aboutisse. Peut-être, continua Didi d'un air songeur, peut-être bien qu'il y a eu un encaisseur. Peut-être que c'est Tessa Leoni elle-même qui l'a engagé. Un tueur à gages pour abréger les souffrances de son mari. Sauf que l'homme en noir a pris sa propre police d'assurance, Sophie Leoni, pour que Tessa ne puisse pas changer d'avis et l'arrêter.
Bobby la regarda. « Je croyais que tu étais convaincue qu'elle avait tué sa fille. »
Didi avait inconsciemment posé la main sur son ventre.
« Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Je me ramollis avec l'âge. Et puis un jury croira qu'une femme puisse tuer son mari accro au jeu d'argent. Mais une mère infanticide, ça sera plus dur à leur faire avaler. »
Elle jeta un coup d'œil à Phil. « Il faut suivre la piste de l'argent. Et vérifie bien que Tessa l'a retiré. Vois ce que tu peux trouver d'autre du côté des finances. Et demain matin, on passe un coup de fil à l'avocat de Tessa pour voir s'il peut nous organiser une nouvelle petite entrevue. Un séjour de 24 heures derrière les barreaux délie beaucoup de langues. Du nouveau, du côté du numéro spécial ? »
Rien de l'avis des enquêteurs.
« Le dernier trajet de la Denali ? » essaya-t-elle avec espoir.
« Si on se base sur la consommation d'essence, elle est restée dans un rayon de 100 km autour de Boston, »
indiqua le chef d'équipe.
« Formidable ! Donc ça nous ramène le périmètre des recherches à quoi ? Un quart de l'état ? »
Grosso modo. Didi leva les yeux au ciel et posa son feutre.
« Autre chose qu'on devrait savoir ?»
« Le pistolet !»
dit une voix au fond de la salle, le capitaine John Little.
« Eh bien ?»
demanda Didi.
« Aux dernières nouvelles, l'inspection l'avait transmis pour analyse ?»« Pas celui de Tessa, » dit Little. « Celui de Brian. »
« Brian avait un pistolet ?»
« Il avait déposé une demande de permis il y a deux semaines. Un Glock 40. Je ne l'ai pas vu sur la liste des pièces à conviction retrouvées dans la maison ou dans sa voiture. »
L'enquêteur la regardait d'un air interrogateur. Didi lui rendit l'appareil.
« Vous êtes en train de me dire que Brian Darby avait un pistolet ?»«
Oui. Il avait déposé la demande de permis il y a deux semaines. »«
Peut-être que la gonflette ne suffisait plus, » suggéra Bobby.
Didi agita la main dans sa direction.
« Hello ! Un peu de recul, là.
Brian Darby avait un Glock et nous n'avons aucune idée de l'endroit où il se trouve ?»
Ce n'est pas de l'ordre du détail, Little. Le permis de port d'armes vient d'être validé, se défendit celui-ci. On a pris un peu de retard ces derniers temps, vous ne lisez pas les journaux? La fin du monde approche et la moitié de la ville veut être armée pour l'occasion.
Il nous faut cette arme, dit sèchement Didi. Déjà, imaginez que ce soit l'arme qui a tué Sophie Leoni.
Le silence tomba dans la salle.
Ouais, dit-elle, fini de bavasser. Fini d'échafauder des théories. On a le cadavre du mari d'une policière et une petite fille de 6 ans disparue. Je veux Sophie Leoni. Je veux le pistolet de Brian Darby.
et si cette pièce à conviction nous mène là où on peut le supposer, je veux qu'on monte un dossier tellement béton que Tessa Léonie sera enfermée pour le restant de sa triste vie. C'est parti, des résultats.
23h30, lundi soir, les enquêteurs remontèrent au front.